Bonjour, je vous salue par Internet. Mon nom c'est Jocelyn Aubu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un des pasteurs à l'église baptiste de Trois-Rivières. Et puis ça fait longtemps que je suis pas venu à l'église. Je vis à la maison avec des personnes qui sont vulnérables, fait que j'essaie de faire attention. Puis je me confine volontairement. Et puis il semble que on est de plus en plus nombreux à se confiner, fait que bon, faut faire avec. Donc je vous salue et ça fait plaisir de pouvoir partager une partie de la Bible avec vous. Ce dont j'aimerais parler ce matin, c'est du roi Jésus. Beaucoup de non-chrétiens admirent, respectent Jésus comme un sage, un grand homme qui avait un enseignement d'amour, mais ils nient le caractère miraculeux de sa personne. Pour eux autres, c'était des superstitions, des histoires que l'Église a inventées pour contrôler le peuple. Et j'avais un ami qui m'avait dit, qui respecte beaucoup Jésus, qui aime beaucoup Jésus, qui n'est pas chrétien, qui m'avait dit si Jésus aurait pu ne pas exister, puis ça n'aurait pas fait de différence pour moi. Pour moi, ce qui est important, ce n'est pas sa vie, sa mort sur la croix ou ce qu'il a fait, c'est son enseignement d'amour. Et puis des musulmans aussi admirent Jésus. Ils considèrent comme un serviteur de Dieu, un prophète d'Allah, puis son enseignement était bon. Mais ils ne croient pas que Jésus était une personne surnaturelle, que c'était Dieu fait homme, qui est venu pour nous sauver, nous délivrer de nos péchés, et qui va avoir la royauté éternelle, parce que c'est un être divin. Et c'est de ça dont j'aimerais qu'on s'entretienne, qu'on médite, que le Seigneur nous parle, nous communique la grandeur de Jésus, qui a lui-même parlé de son royaume. Il a commencé à prêcher en parlant de « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Fait que le Messie, c'est un roi qui avait un royaume qui allait dominer toutes les nations. Et Jésus croyait, et puis la compréhension n'était pas mauvaise. Et même on voit ici dans Luc 22, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. C'était son royaume. Donc, la conception d'un roi triomphant, les disciples n'avaient pas tort d'y croire, Jésus aussi y croyait. Et je trouvais qu'il y avait un épisode, un récit qui exprimait bien le doute que plusieurs ont, le scepticisme envers Jésus, que c'est un roi. Et puis, on retrouve ça dans l'histoire de Pilate, le gouverneur romain, devant qui les Juifs avait accusé Jésus d'être le Messie, le roi des Juifs. Et puis c'est un exemple, je trouvais, de la manière dont les gens prennent pas au sérieux cette qualité de Jésus d'être un roi. On lit dans Jean 18, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, Es-tu roi? Et on va voir dans le récit que ça semble pas sérieux aux yeux de Pilate, aux yeux des soldats, aux yeux des chefs du peuple, que ce soit vraiment un roi. C'est une expression ici pour le ridiculiser. J'aimerais qu'on prie, avant de continuer, pour que Dieu nous parle, que sa parole dans nos cœurs nous encourage et nous rapproche de Jésus. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour le privilège d'avoir ta parole, merci pour le fait d'être ensemble, d'avoir une église, des frères, des sœurs, et qu'on puisse s'encourager à te chercher, à t'aimer, à te connaître davantage. Révèle-toi par ta parole, on te prie ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Et le récit continue. Jésus répond au verset 36, Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais je suis vraiment roi et j'ai un royaume. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. » Et on voit qu'ici, il parle d'un royaume avec une force militaire. Et Jésus, Pilate avait peut-être pas la pensée de le prendre au sérieux, mais Jésus dit « Oui, oui, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Il y avait un autre royaume. Fait que c'est difficile aussi pour Pilate de le prendre au sérieux. Pilate lui dit « Tu es donc roi? » Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité? » Vraiment, Jésus ne l'impressionnait pas, il n'y avait pas de crédibilité aux yeux de Pilate, il n'y avait pas la menace aussi d'un roi. Et Pilate avait le sentiment que c'était lui qui jugeait Jésus et que c'est Jésus qui avait besoin de Pilate. Mais dans la réalité, dans les faits, c'est Jésus qui va juger Pilate pour toute cette scène-là. Ou est-ce que Pilate était mis à l'épreuve et la façon de traiter Jésus allait déterminer comment Jésus allait le juger plus tard? Quels étaient les compromis dans son cœur? Il y a toute une autre réinterprétation des faits qui est différente de celle de Pilate. On continue dans le texte. Après avoir dit cela, il sortit, Pilate, de nouveau pour aller vers les Juifs et leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Fait que là, il leur met ça d'en face, hein? C'est votre roi après tout, hein? Alors, de nouveau, tous s'écrièrent, non pas lui, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors, Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Il n'y avait rien d'impressionnant pour lui, rien de touchant. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. C'était juste une façon de le ridiculiser. C'est trop drôle pour eux, cette idée-là que c'était un roi. Ben, on va t'en faire un roi avec sa couronne. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Il lui donnait des soufflets. Des soufflets, c'est des claques au visage. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Et il les met dans un contexte où est-ce qu'ils auront à se positionner encore ouvertement au sujet de Jésus. Mais ils s'écrièrent, « Hôte, hôte, crucifie-le. » Pilate lui dit, « Crucifierai-je votre roi? » Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons de roi que César. » Je ne suis pas sûr s'ils voulaient vraiment servir César, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ne voulaient pas que Jésus règne sur eux. Fait que là, Pilate les avait conduits justement à se positionner au sujet de Jésus. Puis on est tous amenés dans notre vie à se positionner au sujet de Jésus. Toute la planète sait que c'est un être exceptionnel. On lui attribue des miracles. Il y a un enseignement puissant qui est encore d'actualité, même s'il n'écrit aucun livre. Les hindous croient que Jésus, c'est un avatar, une incarnation du Dieu qui c'est une des incarnations. Et puis les bouddhistes, eux autres, ils pensent que c'est un illuminé comme Bouddha, les musulmans, un prophète. Mais Jésus le dit, lui, qui est plus que ça, qui est Dieu fait homme, un roi, qui réclame la première place dans nos vies, dans l'univers. Fait qu'on a tous un roi dans nos vies, quelque chose qui règne, une priorité, une ambition qui motive nos cœurs, une chose importante, des valeurs fondamentales qui dirigent nos vies. C'est peut-être la réussite, notre travail, nos études, notre famille, nos possessions, une personne qu'on aime beaucoup, nos amis, nos jeux vidéo, qu'on en fait un dieu, un roi. Ça peut être soi-même aussi. Mais pour le chrétien, ça devrait être le roi devrait être Jésus. Excusez. Donc, on va voir justement plusieurs textes de l'Ancien Testament, des prophéties, et qui montrent à quel point Jésus devrait être roi, comment ça devrait affecter nos vies présentement. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de Martin Luther, qui était un grand réformateur dans les années 1500, qui, à l'origine, avec Calvin, puis Zwingli, puis d'autres, du protestantisme. Et puis, lui, c'était un moine, plus jeune dans sa vie, jusqu'à temps qu'il se fasse excommunier. Et puis, il a découvert le sens de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui a porté tous nos péchés. Puis, donc, il a enseigné ces paroles-là. Puis, il s'est marié avec une religieuse qui avait aussi compris le sens du salut, puis qui avait délaissé sa vie dans un couvent. Et puis, habituellement, Martin Luther était d'un naturel joyeux, avait un bon caractère, mais ça lui arrivait d'avoir des périodes difficiles de dépression. Et un jour, il a pris congé, et puis on lui a recommandé, écoute, va te reposer un peu, là, puis peut-être que ça va t'aider. Et puis, en revenant chez lui, il trouve sa femme tout habillée en noir, puis ses enfants aussi tout habillés en noir, et dit, oh non, dis-moi pas, il y a quelqu'un qui est décédé. Fait que sa femme, elle lui répond, elle dit, écoute, Martin, tu savais pas, mais que Dieu est mort. Il dit, moi, je regarde mon mari, puis si Dieu était vivant, il ne serait pas dans un état d'esprit comme il est présentement. S'il y avait un Dieu pour lui faire confiance et qu'il était vivant. Et l'histoire, la mise en scène a touché Martin Luther, qui est parti à rire, puis il a dit, ouais, OK, t'as un bon point, il y a une sagesse dans ce que tu dis. Et puis, il dit, je vais arrêter ça tout de suite. Et tu peux aller te rechanger aussi. Fait que, oui, c'est pas facile d'accepter, quand on est découragé, qu'on est en tort, de s'apitoyer, de se décourager. Et puis, ça a été une prise de conscience. C'est la vérité, puis c'est bon pour moi de l'entendre, que mon Dieu est vivant et que c'est un roi. Puis que je n'ai pas à me laisser abattre, que le fait que j'accepte par la foi qu'il est roi, même si ça ne paraît pas clairement dans notre société, ça me permet d'être encouragé. Et qu'on puisse se réjouir ensemble comme frères et sœurs aussi de notre foi en un Dieu qui règne et qui va revenir aussi comme roi. Donc, c'était une histoire qui était racontée par Spurgeon au sujet de Martin Luther, que je trouvais qui était appropriée. Le fait qu'il soit roi devrait nous affecter, devrait nous rejoindre. Fait que j'aimerais ça qu'on lise quelques textes en commençant dans la Genèse. On voit qu'il parle du Messie, du roi qui était promis, qui allait venir, comme dans Genèse 3, 15. Ça parle au tout début, donc, quand Ève et Adam venaient de pécher. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, toi le serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle du serpent et celle de la femme. Celle-ci, la postérité de la femme, t'écrasera la tête. » Il va, le Seigneur, Dieu, dans son... pour régler le problème de la révolte de l'homme en désobéissant à Dieu, allait envoyer quelqu'un pour écraser la tête de Satan, de l'ennemi. Et tu lui blesseras le talon, c'est-à-dire dans son humanité. Et Jacob aussi, par la suite, dans la Genèse encore, avait parlé de ce roi-là, le sceptre, donc du règne d'un roi, ne s'éloignera point de Juda. On annonçait un roi. Ni le bâton souverain, c'est un roi encore, qui est le sceptre, d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, bon, une expression énigmatique que j'explique difficilement, mais qui parle justement de ce Messie-là, de ce roi qui allait venir et qui serait de la tribu de Juda, et que les peuples lui obéissent. Donc, ce n'était pas simplement la tribu de Juda qui allait lui être soumise, mais tous les peuples. Et déjà, dans la Genèse, on annonçait ce libérateur, ce Messie, qui serait un roi puissant sur tous les peuples. Et dans 2 Samuel, on a un bel exemple, 7, 12. David avait eu l'intention de bâtir un temple pour Dieu. Dieu lui avait dit, non, ce ne sera pas toi, mais ça va être ton fils. Et là, Nathan, le prophète, vient le voir pour lui annoncer cette nouvelle-là, que son fils, un de ses descendants en tout cas, lui bâtirait à Dieu un temple. Alors, la prophétie de Nathan va comme ça, au verset 12, « Quand tes jours de David seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, donc il va être décédé, j'élèverai ta postérité après toi. » Donc, David était un grand roi, mais là, sa postérité, sa descendance allait être élevée en domination, en gloire. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Fait que lui aussi va être un roi. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et là, on pense tout de suite, ben, ça doit parler ici de Salomon, parce que c'est Salomon qui a bâti le temple de Jérusalem. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et là, ça commence à clocher un peu, là, parce que, effectivement, les rois descendants de Salomon n'ont pas régné toujours. Et Salomon a fini sa vie dans un fiasco terrible, d'infidélité envers Dieu, d'adultère spirituel, d'avoir délaissé Dieu. Donc, ça ne cadrait pas tout à fait avec Salomon, mais peut-être en partie avec Salomon, mais pas tout à fait. Et ça continue, la prophétie de Nathan à David. Ça dit, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et c'était donc une indication que ce roi-là, qui allait venir, promis, pour débarrasser de la domination de Satan, qui régnerait sur toutes les nations, serait aussi le Fils de Dieu. Dieu lui sera un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi, ta maison. Et ton règne de roi seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Fait que c'était une promesse inouïe et incroyable qui avait déstabilisé David aussi. Il était retourné au temple pour « Voyons donc, ça se peut-tu que tu me promettes quelque chose comme ça, ouais, pour toujours affermi? C'est pas humain. » Je peux bien avoir une dynastie qui dure des siècles, mais là, c'est pour toujours. Voyons donc que ce roi-là allait régner pour toujours. Donc, c'est sûr que c'est énigmatique un peu. Pour David, ça l'était. Pour nous, c'est beaucoup plus clair. En connaissant ce fils de David, Jésus, qui allait devenir un roi qui va régner pour toujours. C'est lui le vrai fils. La postérité de David, fils de David. Et David a écrit plusieurs psaumes sur le roi en question. Ce roi-là, ce Messie-là à venir. Il y a le psaume 24, le psaume 45, le psaume 110, et on peut regarder ici une partie, ou rapidement, le psaume 2. Et on voit que c'est un roi qui va vraiment dominer, qui va avoir une autorité. C'est pas juste un roi spirituel. Une façon allégorique de parler. Au psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre eux, avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Un oint, c'est celui qui a reçu l'onction d'huile, ça veut dire Messie, qui est loin, ou Christ, qui est le même mot en grec, d'avoir reçu l'onction. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit de tout ça. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi. Il va avoir un roi sur Sion, c'est-à-dire Jérusalem, une partie de Jérusalem, ma montagne sainte. Verset 7. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Ce même roi-là va être aussi le fils de Dieu. Je t'ai engendré aujourd'hui, qui va s'incarner. Le fils de Dieu qui va s'incarner. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il va les posséder, il va régner sur elles. Tu les briseras avec une verge de fer, donc avec une grande autorité, il y aura un contrôle incontesté. On ne le voit pas aujourd'hui comme ça, puis il donne du lousse, la liberté de le rejeter. Mais il arrivera un jour où est-ce que tu les briseras comme un vase, comme le vase d'un potier, où est-ce qu'il va exercer cette autorité-là. Et ça continue, le psaume à la fin, rapidement. « Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, les rois des nations. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de Dieu. » De peur qu'il ne s'irrite, ce grand roi-là, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer, heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc, on voit ici que cette image-là du roi, tel que Jésus va revenir, avec laquelle on est beaucoup moins habitué, on voit le roi doux qui monte un en un, mais... Il est venu avec une couronne d'épines, celle qu'on a connue, mais qui va revenir avec un diadème, on va voir un diadème de puissance, de gloire, d'autorité. On va voir des passages dans l'Apocalypse aussi qui parlent de ça, et que c'est bon de s'en imprégner, de s'encourager de ce fait-là. Le fait que Jésus ne soit pas reconnu, ça ne durera pas tout le temps. Et ce roi-là, donc, allait devenir humain. Ce fils de Dieu allait se faire homme. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, dans Isaïe qu'on lit, vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Et qu'est-ce qu'on dit de ce fils-là aussi ailleurs dans Michée? Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, il y avait comme 1000 villages, mais il y avait un petit village, Bethléem, et de ce village-là, 500-600 ans avant, le nom était précisément indiqué de toi, Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et pas juste sur Israël, mais sur toutes les nations, et dont les activités remontent au temps ancien, au jour de l'éternité. Si ce n'est pas assez clair, là, ça, ces activités de ce roi-là, de celui qui va dominer, remontent au temps ancien. C'est Dieu lui-même, Dieu le Fils. C'est étourdissant comment c'est clair et que ça nous présente dans les prophéties des siècles avant la venue de Jésus, que oui, ce que Jésus a affirmé concernant lui-même d'être pas de ce monde, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, que c'était un être divin. C'était clairement confirmé par les prophéties. Puis on regarde dans Daniel un autre texte que je trouve aussi beau, encourageant. Daniel, dans chapitre 7, a une vision. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Et cette même prophétie-là va être reprise par Jésus. Il s'avança vers l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Cette portion-là va être citée par Jésus. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Au nom de Jésus, tout genou va fléchir. Sa domination est une domination éternelle, qui est donc une confirmation indépendante de cette affirmation-là qu'il va dominer éternellement. Ça va être quelqu'un, donc, qui va vivre éternellement. Cette domination-là qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Et donc, Jésus avait repris ce passage-là, puis on le voit ici, je ne sais pas si on arrive à le lire, c'est un peu petit, dans Matthieu 26, le grand prêtre qui dit à Jésus, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Donc, le Christ, loin, le roi, devait être aussi fils de Dieu. Et Jésus lui répondit, « Tu l'as dit de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, le même dans la prophétie de Daniel, assis à la droite de la puissance de Dieu, donc qui s'avance vers l'Ancien des jours, il est assis à sa droite, et venant sur les nuées du ciel. » Fait qu'il s'avança, et qu'il est donc sur les nuées du ciel. Les responsables juifs ont compris très bien qu'il parlait du Messie, que Jésus admettait donc d'être le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et pour eux, c'était impensable, insoutenable, indéfendable que, voyons donc, cet homme humble soit vraiment le Messie. C'était inacceptable, un sacrilège. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Parce qu'ils n'arrivaient pas à croire, à accepter, à cause de leur aveuglement, que Jésus était vraiment le roi à venir. Il n'y avait rien de l'air d'un roi. Ils n'ont pas accepté ça. Pilate s'en est moqué aussi. Mais c'était vraiment lui que les prophéties annonçaient. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un. Et que Jésus en parle venant sur les nuées du ciel. Dans Sophonie, un autre passage, donc il y en a plusieurs, j'ai pris des extraits, là, mais il y en a énormément. L'Éternel a détourné tes châtiments, qui dit à Israël, il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël, l'Éternel est au milieu de toi. Et là, ce n'était pas simplement l'arche qui représentait la présence de Dieu, mais non, c'était Jésus lui-même, le roi d'Israël, qui était au milieu de son peuple. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Et ça c'est... Ce roi-là a été rejeté par Israël, mais un jour, le cœur des Juifs va être changé. Et tous se tourneront vers lui, pleureront sur celui qu'ils ont percé. Dans Zacharie 9:9, une autre prophétie qui parle, puis là je la trouve très forte, elle, très claire et puissante. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble. C'était justement l'humilité de Jésus, qui était juste, victorieux, humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Et on voit ce même passage-là qui est repris dans Matthieu 21. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, qu'on vient juste de lire. Il dit à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. Et là, on le voit, la plupart des gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches, enjoncèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient une autre prophétie, Hosanna, au fils de David, qui était le roi, le descendant de la postérité de David, qui allait avoir un règne, qui allait durer sur toutes les nations. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Et c'est justement un autre psaume messianique qui parle de Jésus. C'est une citation claire Puis les gens l'entendaient bien, là, cette, les autres, là, de dire, eh bien, voyons donc, là, vous êtes en train d'acclamer le roi d'Israël dans cet humble Jésus qui n'a rien, aucune allure d'un roi. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Voyons donc, ça semble inconcevable. Qui manquait le discernement, puis certains, par contre, l'avaient pour voir au-delà de son humble apparence que c'était vraiment le Messie qui rentrait, qui allait visiter Sion. Et puis donc, d'où ça vient, cette citation que j'ai mise en rouge, là? C'est du psaume 118. J'en ai mis un peu plus ici de citation pour montrer que c'est bien un psaume messianique. Au verset 20, « Voici la porte de l'Éternel. » Jésus avait dit, « Je suis la porte des brebis. » C'est par elle qu'entre les justes. Fait qu'on va être justifié en rentrant par cette porte-là. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. Jésus est devenu notre salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Fait que les responsables qui bâtissaient Israël ont rejeté cette pierre-là, mais qu'elle est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est incroyable. Et ça continue la suite ici. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, la journée de notre salut, quand on a compris à quel, comment c'était beau de pouvoir être pardonné, comment c'était vrai le salut en Jésus. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. C'est ça que ça veut dire, Hosanna. Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Fait que c'était une citation de ça, puis il disait donc à Jérusalem, mais qui est celui-ci? Et on voit qu'il rentre contre un, comme un roi, là, la suite dans Matthieu 21, la foule répondait, c'est Jésus de Nazareth. En Galilée, Jésus entra dans le temple, et on voit ici comme un roi, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs, des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui, et comme un roi qui avait même autorité sur les maladies, il les guérissait. Il y a vraiment une approbation de Dieu qui confirme, écoute, c'est vraiment le roi, regarde, il guérit, là, c'est de Dieu, c'est évident. Et son autorité qui prend sur le dans le temple, sa maison, et qui fait un clean-up. Fait que c'est des mentions qui confirment que même si c'est pas matérialisé, réalisé ces prophéties-là de sa gloire à venir, que ça va se réaliser comme les premières prophéties se sont réalisées au sujet de la première venue de Jésus. J'avance ici d'une citation du psaume 24 qui est belle, qui dit « Porte, élevez vos linteaux ». Et David avait écrit ça, c'était dans le contexte de l'entrée de l'arche à Jérusalem. Fait que la présence de Dieu dans la boîte, là, qui contenait les rouleaux de la loi, puis donc, et les deux chérubins qui avaient la présence de Dieu sur le plateau, le dessus, le couvercle, le propitiatoire, que la présence de Dieu était là. Mais bon, il y a quand même une autre application plus littérale, je trouve, là. Porte, élevez vos linteaux, parce qu'il va rentrer quelqu'un de très magnifique et grand. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? Parce que ça semble incroyable. Il vient sous une humble apparence, et puis de saisir, de discerner que c'est vraiment Dieu fait homme qui vient visiter son peuple. Qui est ce roi de gloire qui pose la question? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Et là, il répète, c'est difficile à croire, porte, élevez vos linteaux, élevez vos portes, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Et c'était Jésus qui rentrait à Jérusalem, dans le temple, la présence de Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Et on voit d'autres passages dans le Nouveau Testament qui traitent de la gloire de Jésus. Dans 1 Corinthiens 2, Paul dit c'est qu'il y avait une sagesse dans l'Évangile qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et Jésus était le Seigneur de gloire qu'ils ont crucifié. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Donc cette gloire-là qui était reconnue. Dieu avait dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais là, c'était notre glorieux Seigneur, parce que justement, Jésus était Dieu fait homme. Et donc, on va voir ici, dans la suite des temps, dans l'Apocalypse, un aspect de Jésus auquel, comme je disais, on n'est pas habitué, qui va se manifester, qui s'en vient, qui va se réaliser avec justice, avec droiture, avec équilibre, avec sagesse. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux, et c'est un terrifiant, là, la description qui donne ici d'un autre, du retour, à son retour. Il va avoir une deuxième phase. On avait celle où est-ce qu'il a porté une couronne, et on le voit ici qui va porter un diadème. Au verset 12, ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, le logos. Et là, son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Et là, une petite image de tout ça, c'est pas très clair là, sur la vidéo comme ça, là, mais on voit ici, derrière lui, on le voit qu'il tient une épée flamboyante pour exercer son autorité avec une armée de saints, d'anges qui le suivent. Le texte continue, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, directement du psaume 2 qu'on a lu tout à l'heure. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Fait que cette moquerie-là, le fait de l'avoir ridiculisé pendant ces siècles et millénaires-là, mais à un moment donné, ça va être fini. Et là, la grâce va être terminée. La grâce de Dieu est sans limite pour pardonner à quiconque vient à lui, mais la grâce de Dieu va avoir un terme, va avoir une fin dans le temps. Et ça va être un jour le jugement, la colère. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois ». Et Seigneur des Seigneurs. Donc Jésus qui va régner sur les nations. Et donc, si ça ne change pas nos vies maintenant, comme chrétien, comme dans l'histoire de Martin Luther, ça devait changer, puis il avait réalisé ça, ça devrait changer ma vie maintenant, de prendre conscience que c'est lui mon roi et que je peux lui faire confiance. Mais si ça ne change pas nos vies maintenant, ça va la changer un jour, définitivement. Et Jésus lui-même racontait, on lit dans Matthieu 25, justement, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il va revenir. Il y aura toutes ces prophéties-là d'un Messie qui va régner dans son royaume, son vrai, et vont se réaliser quand il viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi, qui va régner, dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venu vers moi. » Donc, il va revenir dans son royaume et on voit que ceux qui sont de son royaume, qui mettent en pratique justement sa volonté, ça marche et que ça va changer un jour toutes nos vies, même celles de ceux qui ne le reconnaissent pas comme roi maintenant. J'avais cité rapidement ce verset-là, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, c'est-à-dire Jésus, lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et ça m'encourage de ce verset-là de dire, il viendra un jour, parce que toute langue, même celle qui se rebelle, qui s'oppose, qui résiste, va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En terminant, la question se pose à ce point-ci de savoir, est-ce que Jésus est ton roi? Et je me souviens, au début de, avant de devenir chrétien, la première personne qui m'a parlé du salut, qui m'a présenté Jésus, qui m'a invité aussi, la première fois que j'entendais salut, à recevoir Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Puis ça m'a fait peur. Pourtant, tu sais, j'étais un bon gars, j'allais à messe, à mon âge, à tous les jours. Je buvais pas, je sacrais pas, je fumais pas, je sortais pas. Mais je voulais pas que personne règne sur moi, même pas Dieu. Fait que la question se pose, est-ce que Jésus est ton roi? Moi, je voulais pas qu'il soit mon roi. Puis j'ai cheminé pendant plusieurs mois, années, plus qu'un an, à chercher, puis à réaliser, à grandir, à m'approprier le message, la Bible, de dire, oui, oui, attends une minute, je suis perdu, j'ai besoin d'aide, je suis un pécheur, j'ai besoin de l'aide de Dieu. S'il me donne son aide, qui suis-je pour la rejeter? Et s'il m'aime autant que ça, est-ce que c'est pour me faire du mal, scraper ma vie? Non, ça va être pour mon bien, puis que ça a été difficile jusqu'à la fin de résister à le recevoir, puis à plier le genou, puis à le recevoir comme mon Seigneur, de lui donner ma vie. Et je trouve ça beau ici, il y en a qui le cherchent. Dans Matthieu 2, oui, c'est ça, on voit l'histoire des rois mages, hein, ou des mages qui avaient une autorité dans le pays des Parthes, là, des Mèdes, d'où ils venaient. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? » Et on voit qu'ils cherchaient avec le peu de connaissances, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont vu, son étoile, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. C'est incroyable. Et ils cherchaient, ils voulaient lui rendre hommage. Moi, j'ai résisté, je voulais pas lui rendre hommage et me soumettre à lui, mais on en voit qu'il cherche, puis c'est beau, c'est honorable de le chercher. Et si Jésus n'est pas ton roi, je t'encourage à le chercher, à le supplier, à lui demander de se révéler, lis la Bible, imprègne-toi de la Bible et ça va s'éclaircir. Et une dernière citation, c'est celle du larron sur la croix, le criminel, le meurtrier sur la croix. Et puis, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Donc, il reconnaissait comme roi. Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et que c'était beau de voir cette reconnaissance-là du caractère de roi de Jésus. Et est-ce que tu le cherches comme un roi mage? Certains me disent des fois qu'ils l'ont cherché, mais que ça n'a pas marché pour eux. Mais Jésus dit qu'il ne faut pas arrêter. Même si ça prend du temps, cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et l'on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Puis encourage de persévérer, de continuer. Jésus avait promis tous ceux que le Père me donne dans Jean 6, 37 viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si tu viens à lui, si tu le cherches, que tu persévères, il te mettra pas dehors. Il l'a promis. Il y en a qui se demandent, est-ce que je suis un élu? Je ne sais pas, c'est peut-être pas pour moi. Tout ça, mais il ne mettra pas dehors celui qui vient à moi. Il n'a pas mis dehors le criminel en croix. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Et c'est manifesté aux rois mages qu'ils cherchaient avec le peu de connaissances qu'ils avaient. Où est le roi qui doit naître? Je le cherche. Et que toi aussi, tu puisses te poser cette question-là. Où est ce roi? Je veux le connaître, je veux l'aimer, je veux qu'il se révèle à moi. On va prier en terminant. Grand Dieu, merci pour ta parole et le fait que tu nous révèles les choses qui vont venir dans le futur et qu'on est plus proche de ces événements-là que ce l'était quand tu es venu. Et Seigneur, donne-nous de nous imprégner de ces vérités-là pour être encouragés, pour pas manquer de foi, se laisser aller au découragement, comme dans l'épisode de Martin Luther. Fortifie notre foi par ces vérités. Donne-nous de t'honorer, de t'aimer, de te connaître. Seigneur, on intercède pour ceux qui te cherchent. Dis-lui dans ton cœur que tu en as besoin, si tu ne le connais pas, si tu ne l'as pas reçu comme roi, si tu as peur de venir à lui. Exprime-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu en as besoin. Dis-lui que tu as besoin de son aide dès maintenant pour pouvoir le recevoir. Et demande-lui d'honorer sa promesse, de ne pas mettre dehors celui qui vient à lui. Et il va le faire. Il l'a promis. Sois loué, Seigneur.